Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à midi, une émission préparée ce matin par Lucas Lazo, mais aussi Margot Leridon, Mélanie Chalandon, Bertille Bourdon, réalisée par Benjamin Hu et mise en ondes ce matin par Audrey Guélil. Dernier temps de notre semaine consacrée au bouleversement géopolitique de l'après-Covid. Et oui, c'est le retour de Culture Monde à l'antenne en direct de la Maison de la Radio. Après avoir questionné la solidarité européenne mise à rude épreuve par le virus, après avoir analysé les ressorts de la nouvelle hégémonie chinoise et étudié le déclin du multilatéralisme, revenons aujourd'hui sur les conflits qui continuent de secouer la planète malgré la pandémie, de la Libye à la Syrie, quand le virus fait bouger les lignes de front. C'est notre sujet ce matin dans Culture Monde.
La furie avec laquelle s'abat le virus montre bien que se faire la guerre est une folie. C'est la raison pour laquelle j'appelle aujourd'hui à un cessez-le-feu immédiat partout dans le monde. L'heure est venue de laisser les conflits armés derrière nous pour concentrer nos efforts sur le véritable combat de nos vies. Aujourd'hui, je dis à vous qui êtes en guerre, renoncez aux hostilités. Laissez de côté la méfiance et l'animosité. Posez les armes, faites taire les canons, mettez fin aux frappes aériennes. C'est essentiel pour pouvoir établir des couloirs d'aide humanitaire qui sauveront des vies, pour reprendre le dialogue et donner une chance à la diplomatie, et pour amener l'espoir dans certains des lieux les plus vulnérables face au Covid-19.
À l'aube de l'épidémie, Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU, avait enjoint le monde à faire taire les armes pour se concentrer sur la lutte contre le virus. Malheureusement, son appel à un cessez-le-feu de 90 jours s'est fracassé sur le rocher de la réelle politique et d'un blocage sino-américain dont on attend encore l'issue. Pendant ce temps, discrètement, le régime de Bachar al-Assad envoyait des hommes soutenir l'effort de guerre du maréchal Haftar en Libye. En coulisses, toujours, du côté syrien cette fois, le coronavirus a également été l'occasion pour les Émirats arabes unis de contacter discrètement le président syrien, l'invitant à reprendre l'offensive sur la poche de résistance d'Idlib, faisant fi par ailleurs du cessez-le-feu signé entre Ankara et Moscou début mars. Résultat, aujourd'hui plus que jamais, les guerres en Libye et en Syrie sont imbriquées, devenant le territoire d'un grand jeu d'influence où nombre d'acteurs viennent y défendre leurs propres intérêts. Alors comment les belligérants tentent de profiter de la crise générale du Covid pour sortir leur épingle du jeu, pour tirer leur épingle du jeu? Faut-il craindre que l'épidémie dévaste plus encore des populations déjà vulnérables dans des pays ravagés par la guerre? Et qu'en est-il au Yémen ou encore dans le Sahel où là aussi la pandémie fait bouger les lignes? Pour évoquer toutes ces questions, nous avons invité ce matin Djalel Archaoui. Bonjour Djalel Archaoui.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes chercheur à l'Institut néerlandais des relations internationales de La Haye. Vous êtes un spécialiste de la Libye qui va beaucoup nous occuper aujourd'hui. Ziad Majed, bonjour.
Bonjour.
Merci également d'être avec nous. Vous êtes vous chercheur, politologue et professeur à l'Université américaine de Paris. On parlera de la Libye que vous connaissez bien, mais aussi de la Syrie, qui est évidemment un sujet auquel vous vous intéressez depuis de longues années. Mais d'abord, peut-être l'un et l'autre, une réaction sur ce que je viens d'évoquer en introduction à propos d'Antonio Guterres, qui a appelé au vote d'une résolution qui visait à imposer une trêve générale de 90 jours, qui était un projet qui a été initié par la France et la Tunisie. Et c'est une résolution qui n'a pas pu être votée à cause d'un affrontement entre Washington et Pékin. Vous avez été surpris par cette incapacité à ordonner une trêve générale dans ce contexte absolument inédit, ou finalement c'est dans la droite ligne des blocages à répétition qu'on observe depuis des mois, même des années? Ziad Majed, on va commencer avec vous.
Non, je pense que, pardon, c'est la même position de certains acteurs au niveau du Conseil de sécurité qui paralyse cette institution et qui montre l'incapacité des grandes puissances aujourd'hui de s'entendre et qui s'est manifestée dans le passé au niveau aussi du soutien de l'impunité de certains alliés des grandes puissances, dans le sens où des résolutions ne sont pas respectées, des résolutions parfois ne sont pas votées, et ça continue depuis malheureusement des années, rendant cette institution en grand besoin de réforme et de changement.
Et on en a beaucoup parlé hier, finalement rien de neuf, Djalel Archaoui, hein, c'est tristement, c'était tristement à attendre cette incapacité de trouver une résolution, de voter une résolution, Djalel Archaoui.
Oui, c'est vrai qu'il... C'est vrai qu'il y a une utilité perçue d'une manière très cynique par un certain nombre d'États, y compris occidentaux, à avoir comme ça une continuation des conflits. Cela dit, je ne dirais pas qu'il y a rien de neuf. Je pense que l'agressivité de la Chine est un élément nouveau. Et je pense que cette hostilité croissante entre la Maison-Blanche de Donald Trump, entre maintenant et le 2 novembre étant la date des élections, et la Chine, est un thème qu'il faut prendre très au sérieux quand on analyse le Moyen-Orient, parce que ça va avoir des ramifications.
On en a également beaucoup parlé hier. Jalal Harchaoui, quelques jours avant cette déclaration d'Antonio Guterres, l'envoyé spécial des Nations Unies en Libye, Ghassan Salamé, donnait sa démission, invoquant un état de santé fragile, mais en réalité, on sait bien que sa démission, elle est liée aux ingérences répétées en Libye, qui, en réalité, empêchent totalement de trouver une solution politique. Alors, l'Algérie a proposé un remplaçant, mais là aussi, il a été rejeté, pas par la Chine cette fois, mais par les États-Unis. Est-ce que cette vacance du poste change quoi que ce soit, ou en réalité, ça fait bien longtemps que, malheureusement, une fois encore, l'ONU ne peut rien en Libye, et c'est pas un envoyé spécial qui va changer quelque chose?
Non, je dirais pas jusque là. C'est important, l'ONU, et je pense que autant on peut à la limite montrer quelques erreurs qui auraient été faites par Ghassan Salamé. C'est quand même quelqu'un qui a eu beaucoup d'énergie, qui est resté plus longtemps que prévu, qui a fait son maximum à un certain nombre d'égards, et ne rien avoir à sa place est quelque chose de grave pour la Libye. Il ne faut pas être cynique au point de penser que la diplomatie n'a plus aucune importance, surtout quand il s'agit d'un théâtre où il y a autant d'opérations clandestines et illégales. Je pense aux Émiratis et aux Turcs, évidemment.
On y reviendra évidemment. Ziad Majed, Jalal Harchaoui, peut-être un point, j'allais dire, sanitaire, parce que évidemment, ce sont des pays qui sont en proie à des violences considérables, donc il est très difficile d'avoir des chiffres fiables sur la réalité de la crise sanitaire. Mais est-ce qu'on a un peu quelques informations? Est-ce qu'on a quelques chiffres qui remontent? Est-ce qu'on a une idée du nombre de cas de coronavirus enregistrés d'un côté en Syrie, de l'autre en Libye? Ziad Majed, sur la Syrie, qu'est-ce qu'on en sait?
Non, pour la Syrie, le régime au début avait nié la présence du virus, la circulation du virus, avant de reconnaître plus tard que certains cas qui étaient considérés des cas de pneumonie peuvent être effectivement des cas de coronavirus. Mais il n'y a pas de chiffres auxquels on peut vraiment considérer que ce sont des chiffres crédibles, parce que pour le régime, il voulait minimiser cette catastrophe-là, vu le problème économique grave que connaît le pays et vu la nécessité de beaucoup de gens de devoir travailler. Donc il n'y a pas eu de confinement, il y a eu très peu de mesures. Par contre, ce qui a été inquiétant
pardon de vous couper, mais il pourrait y avoir un intérêt politique à Bachar al-Assad à revendiquer des cas de coronavirus, puisque il y a aussi toutes ces sanctions américaines et européennes qui empêchent évidemment d'avoir aussi des aides, en tout cas de déployer des moyens sanitaires pour y répondre. Donc il pourrait y avoir une utilisation, une instrumentalisation du régime. Elle a pas lieu.
Le problème, c'est que pour le régime, il n'est pas sûr des résultats, sachant que dans la plupart des pays, il y a une crise sanitaire, et donc la Syrie n'est pas prioritaire pour eux. Et en plus, psychologiquement parlant, il n'y a pas une infrastructure en Syrie capable de gérer, donc ils voulaient pas non plus créer encore plus de panique au niveau de la population dans les zones qu'ils contrôlent. Ce que je disais, c'est que dans certains quartiers, vu la présence iranienne, il y a eu des rumeurs comme quoi les Iraniens ont amené le virus dans le pays. Puis il y a eu une pression russe pour prendre des mesures afin de protéger également le personnel russe qui est présent. Donc le régime au début avait nié, puis il a évoqué la question et il n'a pas pu, au niveau de sa propagande, considérer que toute conséquence peut être liée aux sanctions et aux pressions internationales sur Damas. Mais reste que beaucoup de Syriens sont inquiets parce qu'ils savent que le pays ne pourra pas gérer l'épidémie. Et en même temps, rares sont ceux qui peuvent vraiment considérer que les chiffres qui sont avancés par le régime reflètent la réalité.
En tout cas, il y a une vraie inquiétude parce que sur les deux théâtres de guerre, on voit souvent des combattants qui désormais portent des masques. S'agissant de la Libye, Jalal Harchaoui, qu'est-ce qu'on sait de cette crise sanitaire?
C'est une situation extrêmement ambivalente. Premièrement, il n'y a aucun espoir d'obtenir des statistiques qui aient la moindre signification pour des raisons de logistique, mais aussi de politique. Il y a l'univers civil qui a été très courageux. Je pense notamment aux maires qui ont pris en charge un certain nombre d'initiatives avec les moyens du bord et qui ont pris des mesures quand même tout à fait honorables avec une vraie volonté de se comporter un peu comme certains États européens. Et il y a eu un travail qui a été fait. En revanche, l'univers militaire, et j'inclus évidemment les flux de mercenaires étrangers des deux côtés, il a continué. Il a continué sans aucun égard par rapport au risque de contamination de la Libye à travers tous ces vols et tous ces déversements de mercenaires du côté émirati et du côté turc, malheureusement. En termes de preuves anecdotiques, j'allais dire, c'est-à-dire quand on parle aux Libyens, pour l'instant, il n'y a pas une réalité quotidienne en termes de morts dans leur famille ou des choses qu'ils verraient dans la rue d'une manière très fréquente et ainsi de suite. Donc, soit il y a un décalage temporel de plusieurs semaines qui fait qu'ils ne sont pas encore arrivés au pic, au paroxysme de leur propre crise Covid-19, ou alors peut-être, et ça c'est une théorie qui circule de plus en plus au sujet des pays africains, peut-être que la manifestation d'épidémie dans un théâtre comme la Libye, espérons en tout cas, peut-être qu'elle va s'avérer moins effroyable que dans des pays comme l'Iran ou d'autres pays qui ont été vraiment frappés par en termes de morts, en termes sanitaires.
Alors regardons ce qui s'est passé d'un point de vue purement politique du côté de la Libye, puisque quand le monde basculait dans le confinement, le maréchal Haftar, qui est l'homme fort de l'Est du pays, a publié une vidéo dans laquelle il prétend en tout cas s'être emparé du pouvoir, il prétend disposer d'un mandat du peuple pour gouverner seul le pays. Extrait.
Nous exprimons notre fierté pour le mandat du commandement général de l'armée. Avec cette mission historique, dans ces circonstances exceptionnelles, et la suspension de l'accord politique suite à une décision du peuple libyen qui est la source du pouvoir. Nous annonçons l'acceptation de l'armée, de la volonté du peuple.
Bon, alors si on écoute cette vidéo du maréchal Haftar, eh bien, il y a toutes les raisons de penser que le voilà maintenant à la tête du pays, puisque l'armée est derrière lui, puisque visiblement le peuple est derrière lui. Est-ce que vous pouvez nous aider à comprendre, Jalal Harchaoui, ce qui s'est passé là en Libye? Haftar est à la tête du pays, Jalal Harchaoui, puis ensuite je donne la parole à Ziad Majal.
D'abord, il dénonce l'accord politique de Sriraat, l'accord qui avait été signé en décembre 2015, et ça ne peut pas être l'objet de son intervention, puisqu'il l'a déjà dénoncé et déjà répudié en décembre 2017. Donc ça ne peut pas être l'objet de son intervention. Ce qui est intéressant, c'est quelle est sa cible. Il est en train de taper sur qui quand il dit « je veux prendre plus de pouvoir » et il le confisque à qui. Et en fait, il s'agit des institutions civiles de la Cyrénaïque, des institutions qui lui sont déjà loyales. Je pense notamment au Parlement et aussi au gouvernement intérimaire, comme ils disent, d'Abdullah Thani al-Baïda. Et ça, c'est intéressant. C'est le fait qu'il saisisse du pouvoir et qu'il l'enlève à des acteurs qui sont déjà de son côté. Donc, et ça, c'est une conséquence du fait qu'il ressemble de plus en plus à, non pas un battant, mais un loser. C'est-à-dire qu'il est en train de perdre l'aventure qu'il a lancée lui-même en avril 2019 en Tripolitaine, et cela crée des ouvertures pour des États qui ont toujours été sceptiques par rapport à sa saga contre la capitale, contre Tripoli. Je pense notamment à la Russie, mais aussi à d'autres États qu'on pense être à 100% derrière lui, mais qui sont également sceptiques, je pense donc à l'Égypte. Ce sont des États qui voudraient donner plus d'importance à d'autres figures que toujours le maréchal Haftar à l'Est. Et c'est pour ça qu'il a pris ses dispositions pour devancer ses tendances et consolider son pouvoir. C'est une façon à lui de se recentrer sur la Cyrénaïque, puisqu'il se rend compte que la présence turque à l'Ouest va durer encore très très longtemps.
Ziad Majed, comment vous interprétez les choses? Parce que ce que j'entends dans ce que nous explique Jalal Harchaoui, c'est qu'au fond, c'est plutôt, j'allais dire, une démarche qui vise à se sauver la peau du côté du maréchal Haftar, parce qu'il est considérablement affaibli, et il l'est notamment à cause de la montée en puissance de l'acteur turc. On va y revenir. Mais ce qui m'intéresse là, c'est que jusqu'ici, les Occidentaux, les Américains, les Européens, n'ont pas voulu s'en prendre trop à Haftar parce qu'ils considéraient qu'en réalité c'était un bon allié dans la lutte contre le djihadisme et que finalement le retour d'un homme fort à la tête de la Libye pourrait leur servir. Mais là, avec son affaiblissement, au fond il devient assez difficile d'envisager son arrivée à la tête du pays. Alors, à partir de ce moment-là, Ziad Majed, est-ce que c'est pas au fond le bon moment pour les Occidentaux de cesser de soutenir officieusement Haftar et de réellement soutenir Farage, qui par ailleurs a été mis en place à l'issue d'un processus sous l'égide des Nations Unies, et donc normalement les Occidentaux devraient être derrière lui et le soutenir, ce qui n'est pas le cas. Est-ce que c'est pas le moment de tuer politiquement Haftar et de soutenir réellement Farage pour les Occidentaux, Ziad Majed?
Oui. Alors, juste pour préciser, les Occidentaux n'ont pas tous la même position, parce que l'Italie, par exemple, est opposée à Haftar. L'Allemagne, l'Union européenne prétendent, ou du moins annoncent, soutenir le processus politique qui avait mené Sarraj au gouvernement. C'est la France plutôt qui a été assez hésitante, pour ne pas dire plutôt complice, avec les positions de Haftar et de son entourage et de ses alliés. Pour juste ajouter à ce que disait Jalal Harchaoui, je suis tout à fait d'accord avec son analyse, il y a un phénomène au niveau de plusieurs conflits où les acteurs locaux essayent de se montrer toujours indispensables ou incontournables pour leurs propres alliés au moment de leur affaiblissement. Haftar, on croyait qu'il était en montée militairement, politiquement pendant quelque temps. Il y a eu l'offensive qu'il a lancée contre la capitale Tripoli. Et puis, avec l'intervention turque et avec le déploiement des drones d'une manière encore plus intensive, les choses ont basculé. Il a subi des défaites autour de Tripoli, et cela l'a obligé peut-être maintenant à se repositionner un peu, à essayer de montrer qu'il est toujours l'homme de la situation, même s'il y a des revers militaires. Donc il s'adresse en partie également à ses propres sponsors, aux Émirats Arabes Unis, aux Russes qui le soutiennent, et il y a des mercenaires russes de la société privée Wagner qui se bat sur les fronts du côté de Haftar. Donc il veut toujours survivre et montrer qu'il n'est pas fini, qu'il peut être encore l'homme de la situation. Et malheureusement, comme vous avez dit, cette idée de l'homme fort, de quelqu'un qui remplace un dictateur et qui a toutes les caractéristiques du dictateur aussi, montre que dans certains cercles en Occident comme ailleurs, la question de la démocratie et de l'évolution sociale et culturelle dans une partie du monde, étant le monde arabe dans ce cas, n'est pas prise au sérieux, n'est pas respectée. L'idée, c'est juste d'imposer une stabilité, même si cette stabilité vient d'un homme lui-même accusé de crimes de guerre aujourd'hui et qui est opposé aux valeurs de la révolution libyenne en ses premiers mois. Donc c'est une situation qui reste assez complexe, mais c'est sûr qu'avec l'intervention militaire turque, il ne sera pas possible pour Haftar et les Émirats Arabes Unis d'imposer une solution militaire comme ils espéraient le faire il y a quelques mois.
Oui, vous parliez de la Turquie justement, parce que effectivement, il semble qu'elle ait un peu changé les rapports de force sur place. Il y a eu cet assaut sur Tripoli lancé par le maréchal Haftar, et non seulement il n'est pas parvenu à prendre la capitale, mais pire, il a essuyé d'importantes défaites, et notamment dans deux villes à une cinquantaine de kilomètres de Tripoli, qui étaient des bases arrières d'Haftar. On va justement peut-être écouter Erdogan, le président turc, et puis ensuite je vous fais réagir Jalal Harchaoui sur justement les conséquences de l'intervention et de la montée en puissance de cet acteur turc sur le terrain libyen.
Libya'da ise ülkenin meşru yönetimine verdiğimiz destek sayesinde darbeci Haftar.
En Libye, notre soutien au gouvernement légitime du pays a provoqué le recul du putschiste Haftar. Les efforts des pays fournissant armes et soutien matériel inconditionnel pour tenter de sauver Haftar, qui n'a de cesse de prendre en otage le peuple qui habite ces terres, ne suffiront pas. Si Dieu le veut, une bonne nouvelle nous arrivera bientôt de Libye. La sécurité, la paix et la prospérité de ce pays sont la clé de la stabilité en Méditerranée et dans toute l'Afrique du Nord. C'est dans ce cadre que s'inscrit notre détermination à ramener la paix dans cette région, en maintenant notre soutien au gouvernement légitime de Libye.
Bölgeyi yeniden bir barış beldesi haline getirmeye
Voilà, c'était il y a quelques jours, le 4 mai dernier, le président turc Erdogan. Djalal Arshaoui, sur cette question de l'acteur turc, parce que c'est vrai que pendant un temps, le rapport de force n'était pas exactement dans le même sens, et notamment parce qu'on avait un autre acteur dont on n'a pas encore parlé, mais qu'il va falloir faire intervenir, c'est les Émirats Arabes Unis, qui avaient fourni un certain nombre de matériel, notamment de drones, et qui leur permettait d'avoir une forme de contrôle, en tout cas une supériorité dans le domaine aérien qui leur donnait l'avantage. Et là, avec la montée en puissance des Turcs, les choses changent, notamment, Ziad Majed le disait, parce qu'ils ont envoyé de nouveaux drones de dernière génération, et donc le rapport de force changeant dans les airs, il est en train de faire bouger les choses. Mais d'abord, Djalal Arshaoui, votre interprétation sur ce retournement de rapport de force et sur la question qui est celle de est-ce qu'on peut avoir une issue militaire à cette opposition. On va avoir là, on va regarder ce que les Émirats Arabes Unis vont faire. Est-ce qu'ils vont là aussi répondre à la montée en puissance de la Turquie? Est-ce qu'ils vont plutôt laisser faire et ne pas réagir? Comment vous voyez les choses, Djalal Arshaoui?
Il est certain que la Turquie est en train, est en passe, c'est pas fini, hein. La bonne nouvelle qui était promise par le président Erdogan n'est toujours pas tombée, ils sont pas encore sortis de l'auberge, mais il est très possible, très probable que la Turquie gagne une bataille, décisive. Et si cela se produit, ça voudra dire que finalement, des paramètres que les réalistes devraient prendre en considération, je dis ça parce que Jean-Yves Le Drian se présente souvent comme un pragmatique et un réaliste. Quand on est un réaliste, il faut regarder la puissance industrielle d'un pays, sa démographie, ce qui fait partie de l'OTAN ou pas, et ainsi de suite. Et là, évidemment, la Turquie a toutes ces caractéristiques-là. Ce sont d'énormes avantages que leur ennemi idéologique dans la région, les Émirats Arabes Unis, ne possède pas. Et je dis ça parce que la France est beaucoup plus proche, évidemment, des Émirats Arabes Unis que de cette puissance de l'OTAN qui s'appelle la Turquie. Donc la bataille risque d'être gagnée. Et après, qu'est-ce qui se passe? Et je pense pas que ça va être la victoire de la Turquie sur toute la guerre civile libyenne, pour des raisons géographiques, pour des raisons anthropologiques, et aussi pour des raisons liées à la crise économique qui est en train de ronger la Turquie, qui fait que si elle gagne cette bataille-là, ça sera déjà énorme. Ça sera peut-être une petite victoire politique parce que la Turquie pourra dire aux civils de la zone de Tripoli qu'ils ne sont plus tués de manière quotidienne grâce à cette intervention tout à fait illégale de la Turquie. Et ce qui est intéressant, c'est qu'est-ce qui se passe au-delà. Premièrement, je pense pas que la Turquie va s'en aller un jour. Je pense que nous allons assister à un scénario un peu à la chypriote. Je vous rappelle que la Turquie a saisi une partie de Chypre en 1974 et qu'elle y est toujours, même s'il n'y a pas de reconnaissance, même si c'est une présence illégale. Donc, et par ailleurs, je suis assez certain que la Turquie ne peut pas convaincre, disons, la partie tribale, la partie très arabe, très tribale de la Libye, qui représente quand même une force politique très importante. Cette dimension, cette facette de la Libye ne sera jamais du côté de la Turquie. Donc, à quoi on insiste, très probablement, c'est une partition de la Libye.
Ziad Majed.
Avec, en plus de ça, une partition qui soit guerrière. C'est-à-dire que autant Haftar est en train de se recentrer en Cyrénaïque, autant Erdogan est en train de faire gagner le gouvernement d'entente nationale à Tripoli, ça ne veut pas dire que tout va se décanter une fois que la partition se dessine. Au contraire, il va y avoir une guerre qui va continuer encore très longtemps, très méchante, très incontrôlable, entre ces deux Libyes. Parce qu'il s'agira encore d'essayer de gagner un peu plus de pétrole, un peu moins de pétrole, et ainsi de suite.
Ziad Majed, vous êtes d'accord? Ce scénario à la chypriote, cette idée selon laquelle la Turquie resterait longtemps en Libye?
Oui, la Turquie est dans une logique de présence au-delà de son territoire, d'une manière assez consistante. On le voit en Syrie, maintenant en Libye. Peut-être la seule différence avec Chypre, c'est que là, on n'est pas sur une île. Il y a des voisins qui peuvent s'alarmer d'une guerre sans fin, que ce soit l'Égypte ou la Tunisie et l'Algérie qui veulent trouver une solution politique pour éviter le pire et pour éviter que la fragmentation soit un fait accompli sur le sol. Maintenant, pour les Turcs, il est vrai qu'ils ne peuvent pas gagner la guerre, mais ils peuvent s'imposer, comme ils l'ont fait en Syrie, pour empêcher l'adversaire de gagner et pour montrer que on peut pas dépasser Ankara dans la quête des solutions politiques, que les Turcs sont un acteur capable d'imposer des éléments sur les agendas de ces pays-là en transition, en guerre, en conflit et peut-être aussi en fragmentation. La seule différence, encore une fois, avec Chypre, à mon avis, c'est cette question du voisinage direct qui est extrêmement inquiet par la guerre et par la circulation des combattants. Et même s'ils font tout pour fermer les frontières, à long terme, ça va être très difficile, surtout que beaucoup de mercenaires qui sont mobilisés de part et d'autre, mais notamment du côté émirati, ceux qui viennent du Soudan ou de certains pays africains, leur retour également va poser problème. Donc c'est une question qui nécessite finalement beaucoup d'efforts pour la contrôler.
Mais justement, à ce propos, Ziad Majed, vous évoquiez tout à l'heure la présence de mercenaires russes du côté de la Libye. On a eu l'occasion d'en parler à ce même micro. Il y a une autre présence, d'autres mercenaires qui sont peut-être moins attendus. C'est des mercenaires syriens, en tout cas des combattants syriens qui régulièrement arrive visiblement du côté de la Libye pour, là aussi, défendre les intérêts de Damas. Peut-être un mot, Ziad Majed, pour nous éclairer sur l'ampleur exacte de ce soutien, et puis comprendre pourquoi Bachar al-Assad projette des forces à l'extérieur de ses frontières, alors même que, quand même, il n'a pas encore repris l'intégralité de son territoire. Il reste encore Idlib qui résiste toujours. Alors, quel est son intérêt? Que cherche-t-il lorsqu'il déploie comme ça des combattants du côté de la Libye?
Ziad Majed. Alors, les premières vagues de combattants syriens, qu'on peut qualifier évidemment de mercenaires syriens qui sont arrivés en Libye, étaient plutôt du côté du gouvernement de Sarraj, mobilisé par la Turquie, qui les a envoyés de la région de Idlib et de la région d'Alep pour se battre autour de Tripoli contre Haftar, et ils étaient payés, plus ils étaient promis au niveau de leur famille des résidences en Turquie, et au cas du décès, parfois même la nationalité turque. Donc le début de l'engagement des mercenaires syriens était du côté turc. Cela, plus tard, s'est poursuivi avec une contre-mobilisation, cette fois par les Russes, qui ont envoyé des combattants syriens qui se battaient du côté du régime, des milices que le régime à Damas avait créées pour épauler son armée et pour contrôler la situation dans certaines zones où il n'y avait pas de combat. Ils ont été envoyés pour appuyer Haftar.
Mais alors, pourquoi? Pour quelle raison? Quel est l'objectif?
Pour deux raisons. Alors, il y a d'un côté le phénomène ou l'acteur russe qui est décisif dans les deux cas. C'est la Russie qui, en Libye, s'est engagée pour soutenir Haftar. Il y a des questions de gaz, de pétrole, de présence stratégique au niveau de la Méditerranée. Puis il y a donc il y a cette question-là russe. Et puis du côté de Assad, il y a une vengeance contre la Turquie. Il y a la guerre qui a commencé il n'y a pas très longtemps par les Émirats et les Saoudiens contre tout ce qui est considéré proche de la Turquie et des frères musulmans en général. Et Assad essaye de s'inscrire également dans cette guerre-là. Et il y a évidemment la ressemblance entre Haftar, Sisi, Assad, des dictateurs qui issus de l'armée militaire eux-mêmes et qui ne veulent pas voir de transition ou de changement. Donc la Libye et la Syrie, c'est également des anciens rapports entre Kadhafi et Assad père. Il y a le besoin d'aide économique que la Libye pourrait fournir au régime et au niveau du pétrole. C'est aussi important. Donc c'est une question plutôt régionale et de ressemblance de profil de dictateur ou de futur dictateur. Et la Turquie et la Russie sont les deux acteurs qui recrutent en Syrie les mercenaires des deux bords.
Jalal Arshaoui, une question régionale bien sûr, mais peut-être aussi une question de politique intérieure du côté de Bachar el-Assad, puisque lié comme ça, se lier au maréchal Haftar, passer un accord comme il l'a fait en mars dernier, ouvrir du côté de Damas une ambassade libyenne qui avait été fermée en 2012, c'est aussi une manière pour Bachar el-Assad d'entamer une forme de retour, au moins sur la scène régionale, de retour diplomatique. Peut-être pour ensuite entamer un retour plus général sur la scène internationale. Est-ce que vous pensez ce retour politique, diplomatique de Bachar el-Assad possible ?
Non. En fait, je voudrais quand même aller un petit peu à l'encontre de ce qui vient d'être dit, parce qu'il y a une forme active que je rejette. C'est pas l'initiative de Bachar el-Assad. Mm-hmm. Bachar el-Assad a d'autres chats fouettés. Il a des priorités beaucoup plus locales. Mm-hmm. Et il est en pleine guerre. Il n'a pas envoyé du tout des combattants de bonne qualité qui pourraient lui être vitaux de son côté. Comme l'a dit Ziad, ceux qui ont pu être recrutés par Wagner sont plutôt dans des zones qui ne sont plus du tout en guerre. Et souvent, ce sont des
Wagner étant, pardon, pour que ça soit clair pour les auditeurs, Wagner étant cette société russe qui appartient à un oligarque qui est un proche de Vladimir Poutine. Voilà. Parenthèse fermée.
Tout à fait. Donc, en fait, il y a un moteur. Si Assad n'est pas le moteur, qui est le moteur? Ce n'est pas les Russes. Les Russes n'ont pas un rôle décisif en Libye et ils ne se sont pas engagés à soutenir Haftar. En fait, ils ont une vision tout à fait antipathique d'Haftar parce qu'il est incompétent. Incompétent au sens réaliste. C'est-à-dire qu'il ne livre pas les victoires militaires qu'il promet. Les Russes sont beaucoup plus intéressés à infiltrer cette Libye qu'ils ne connaissent pas encore parfaitement, à être présents des deux côtés, surtout du côté cyrénaïque, parce que ce sont des institutions nouvelles qui sont en train d'être construites avec une présence qu'il faut avoir sur le terrain, comprendre la nouvelle scène politique, se rapprocher de l'Égypte et ainsi de suite. La décision stratégique au niveau du Kremlin de venir aider Haftar à atteindre la ligne d'arrivée n'a jamais été prise. Et je pense pas qu'elle soit un jour prise. Parce qu'ils ne l'aiment pas, ils ont vu que sa prestation au sens militaire, au sens sécuritaire, n'est jamais à la hauteur de ce qu'il promet dans les diverses capitales. En revanche, Wagner continue à se comporter d'une manière commerciale, si vous voulez. Mmh. Alors, qui sait, quelle est la force motrice qui est en train de pousser Wagner à jouer ce rôle qui consiste à aller racler les fonds de tiroir et essayer de trouver des combattants pour les envoyer du côté de Haftar, qui manque cruellement de Libyens, parce que les Libyens du côté Est ne souhaitent pas aller risquer leur vie aux abords de Tripoli. Eh bien, c'est encore une fois les Émiratis. La personne qui paie, la personne qui supplie, la personne qui insiste, c'est le prince héritier Mohammed Ben Zayed. Et qu'est-ce qu'il promet à Assad? C'est ça qui est intéressant. Il promet une réintégration dans l'univers arabe. Une réintégration, par exemple, au sein de la Ligue des États arabes. Et cette réhabilitation qu'il promet à Bachar el-Assad a de la valeur, évidemment, pour Damas. Alors, si Damas se fait payer, que Damas n'envoie pas des combattants absolument précieux, eh ben pourquoi pas? Mais ce n'est pas une initiative d'Assad.
C'est pas une initiative d'Assad. Ziad Majed, encore peut-être un petit mot dans quelques instants. On va retrouver Laurent Bonnefoy pour évoquer le Yémen, où là aussi, malheureusement, la guerre continue. Un mot, Ziad Majed, si vous le voulez bien, sur les liens entre Moscou et Damas. L'état actuel des liens, parce que ces dernières semaines, il y a un certain nombre d'articles qui ont été publiés dans la presse russe, assez critique à l'égard de Bachar el-Assad, ce qui n'est pas si fréquent. Et les observateurs avertis dont vous faites partie y ont vu peut-être une forme de méfiance, de défiance, d'agacement du Kremlin vis-à-vis de Bachar el-Assad, qu'on a pourtant jusqu'ici soutenu de façon assez indéfectible. Qu'en est-il réellement? Comment interpréter tout ça? Voilà, oui. Ziad Majed.
Alors, juste pour faire le lien avec ce que Jalal vient de dire, et peut-être je suis pas tout à fait d'accord avec cette idée de la Russie qui n'intervient pas au moment où ils n'apprécient pas, où ils ne font pas confiance à un homme. D'ailleurs, c'est leur histoire en Syrie aussi. C'est-à-dire, s'ils trouvent Haftar incompétent et ils n'ont pas de sympathie pour lui, ils sont quand même plutôt engagé en Libye de son côté, afin de devenir des acteurs dans une solution finale qui leur permettrait d'avoir une présence importante dans ce pays et dans l'Afrique du Nord. C'est la même chose en Syrie, bien que, évidemment, ils sont beaucoup plus engagés, parce que c'est l'État, c'est pas une société de mercenaires, bien que ils n'apprécient pas Assad et ils n'ont pas arrêté de l'humilier en public, que ce soit durant la visite de Poutine à Damas, où il n'a pas été autorisé par un bodyguard de Poutine, un garde de corps qui l'a empêché de marcher avec lui au même niveau. Il n'a pas été reçu avec le drapeau syrien et même avec un traducteur lors de sa visite en Russie, où tout le monde parlait autour de lui en russe et il n'y avait pas le drapeau de son pays. Donc il ne manque pas d'occasion de l'humilier. Mais en même temps, ils considèrent que c'est leur allié sur place qu'ils ont sauvé, afin de s'imposer eux-mêmes et non pas par rapport à sa personne et à sa famille ou à son régime. Récemment, ce qui se passe, c'est que la Russie commence à considérer que cette situation-là, plus elle dure, plus elle va entraîner des pertes économiques russes, surtout que la reconstruction n'est pas à l'ordre du jour. Ils ont pensé qu'avec une solution militaire, ils allaient pouvoir convaincre les Européens et les Occidentaux à reconstruire en Syrie. Cela va amener des entrepreneurs et des sociétés privées russes pour également tirer profit, et qu'ils vont être les maîtres du jeu à partir de la victoire militaire. Cela n'a pas eu lieu, même si ils ont sauvé le régime et ils sont aujourd'hui les premiers acteurs en Syrie. Il y a quand même une partie du territoire qui les échappe. La reconstruction n'a pas eu lieu. Et il y a des conditions américaines pour accepter leur solution en Syrie, c'est d'écarter l'Iran, chose qui n'est pas tout à fait possible. Et en même temps, ils veulent restructurer l'État, restructurer l'armée, finir avec l'économie de guerre que Bachar al-Assad avait mis en place et a permis à des mafieux, à des chefs de milice, à faire et imposer leur propre économie sur leur territoire. Et ils veulent centraliser, et cela nécessite d'envoyer de temps à autre des messages comme des piqûres à Assad pour lui dire que ça ne va pas, il faut faire ça. Et lui, de son côté, il essaye de se racheter. Il essaye parfois de montrer qu'il y a les Iraniens aussi, il doit faire avec. Il pense peut-être pouvoir jouer une carte iranienne face à une carte russe, mais je pense que ces marges de manœuvre sont de moins en moins importantes, vu la crise économique, vu les accords et les ententes entre Ankara et Moscou, qui sont très importants pour les uns et les autres, et vu le fait que pas de reconstruction avec tout ce que là engendre, comme au niveau russe, comme une poursuite de leur gestion qui devient de plus en plus difficile de tout ce dossier-là.
On est avec vous, Ziad Majed, et vous, Jalal Archaoui, de la Libye à la Syrie, quand le virus fait bouger les lignes de front dans cette série consacrée à la géopolitique de l'après-Covid. On voit que tout est lié, la Libye, la Syrie. On va s'intéresser au Yémen, où là aussi, eh bien, il y a des imbrications. 11h36 minutes, vous écoutez France Culture, vous écoutez Culture Monde.
France Culture, Culture Monde, Florian Delorme.
Puisque le 26 avril dernier, en pleine pandémie mondiale de Covid-19, la coalition anti-houtiste menée par l'Arabie saoudite, cette fois au Yémen, a révélé ses profondes divisions. En effet, alors que la trêve proposée aux houtistes par les Saoudiens quelques jours plus tôt faisait long feu, une faction de cette coalition, le Conseil de transition du Sud, déclarait l'autonomie du Sud du pays vis-à-vis de l'autorité du gouvernement dit légitime, qui est lui exilé à Riyad.
Notre prochaine étape, ce sont tous les gouvernorats du Sud. On ne s'arrêtera pas à Aden. Après cette étape, de nombreuses réalisations seront accomplies qui produiront un grand changement et fourniront de nombreux services.
Voilà, désormais les combats font rage entre les anciens alliés de la coalition. Alors qu'est-ce qui peut se passer maintenant? Comment comprendre ces tensions entre l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis, qui sont pourtant des alliés indéfectibles? Bonjour Laurent Bonnefoy, on vous retrouve depuis Oman.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes politologue, spécialiste de la péninsule arabique et chargé de recherche au CNRS. Là, on a franchi une nouvelle étape, Laurent Bonnefoy, dans ce conflit yéménite, avec ce front anti-houtiste qui a volé en éclats. Pourtant, je le disais, traditionnellement, Et c'est le cas en particulier depuis avril 2015, lorsque Mohamed Ben Salman a décidé de lancer ce conflit du côté du Yémen. L'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis sont unis. Et là, pourtant, on a une division qui est assez soudaine, qui est en train d'advenir. Comment le comprendre? Et est-ce que c'est un lien quelconque avec la crise mondiale du Covid-19, par laquelle, évidemment, les acteurs régionaux et internationaux ont peut-être d'autres préoccupations, d'autres priorités, que d'un coup il peut se passer des choses. Jusqu'où est-ce qu'on peut relier les deux, Laurent Bonnefoy?
Alors je ne crois pas qu'il y ait de lien direct. La crise entre le gouvernement dit légitime, appuyé par Riyad, et puis le mouvement sudiste, appuyé par les Émirats Arabes Unis, couvre en réalité depuis de nombreuses années. Quasiment dès le départ, dès le lancement de l'offensive en 2015 contre les houthistes, il y a bien eu un partage du travail entre les Émirats Arabes Unis, qui s'occupent des gouvernorats du Sud, et puis l'Arabie Saoudite, qui traite davantage sur le front nord. En réalité, il y a une division qui est aussi fondée sur des enjeux directement politiques, voire idéologiques, avec l'Arabie Saoudite qui, assez rapidement, se rendant compte de ses difficultés sur le terrain, a décidé de s'appuyer sur le mouvement des frères musulmans, qui est représenté au Yémen par le parti Al-Islah. Or, et les sudistes et les émiratis sont extrêmement méfiants à l'égard de ce parti, et ça s'est cristallisé notamment autour du rôle de ce parti et de ce mouvement.
Mais jusqu'où justement ces tensions entre l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis peuvent aller? De toute façon, on est d'accord sur l'essentiel, et peut-être en particulier sur l'avenir du Yémen, et ce ne sont que des petites dissensions locales qu'on va très facilement dépasser.
Je pense qu'il y a une vraie une vraie dissension en fait, qui est liée à la forme de l'État. Avec l'Arabie Saoudite, bien que dans les années 1990, quand il y avait eu un conflit au cours duquel elle avait soutenu le mouvement sécessionniste sudiste, eh bien aujourd'hui l'Arabie Saoudite semble davantage attachée en fait à l'unité du Yémen, alors que les Émirats Arabes Unis, pour des raisons qui sont pas explicitées, qui peuvent avoir un lien, par exemple, avec la question des ports, avec la question du commerce, eh bien, eux semblent finalement appuyer le principe d'une sécession, c'est-à-dire un retour qui est largement fantasmé, à la situation pré-1990, quand on avait deux Yémen, le Yémen du Nord et le Yémen du Sud.
Et on pourrait simplement pas s'accorder sur une, on pourrait pas s'accorder sur une solution un peu intermédiaire, avec un système de fédération, ou même, pourquoi pas, de confédération?
Alors, c'est ce qui était envisagé, en fait, à la sortie du printemps yéménite de 2011. On avait eu toute une phase de transition qui devait mener à la rédaction d'une nouvelle constitution. Et cette nouvelle constitution était une constitution fédérale. Simplement, il y a eu des dissensions très fortes, une opposition notamment des sudistes qui refusaient en fait de voir leur propre territoire scindé en deux États fédérés. Cette option fédérale, elle demeure, je dirais, dans les cartons. Simplement, plus la guerre dure, plus elle risque de justement acter l'impossibilité d'avoir un système même fédéral ou un Yémen unique.
Sauf que là, Laurent Bonnefoy, là pour le coup, la crise du Covid-19 pourrait avoir un impact, parce que bien sûr, lorsque Mohamed Ben Salman décide de lancer en avril 2015 ce conflit au Yémen, il n'imagine peut-être pas qu'il y sera encore 5 ans après, et il n'imagine peut-être pas que 5 ans après, il sera considérablement fragilisé. Il y a eu évidemment l'affaire Khashoggi, ce journaliste assassiné à Istanbul, mais il y a maintenant l'effondrement du prix du pétrole qui plombe l'économie de son pays, et donc peut-être que l'intérêt aujourd'hui de MBS, Mohamed Ben Salman, c'est de sortir très rapidement de ce conflit. Et donc, il y a peut-être un empressement à trouver une solution politique du côté de l'Arabie Saoudite. Laurent Bonnefoy.
Tout à fait. Et effectivement, c'est une des raisons pour lesquelles, eh bien, il y a eu l'annonce d'un cessez-le-feu unilatéral le mois dernier, qui n'a pas tenu, pour une raison assez simple. c'est que la rébellion houthiste, pour le moment, n'en veut pas, parce que elle est en position de force. Et tout l'enjeu, et on sent bien depuis plusieurs mois, voire peut-être deux ans, que les Saoudiens, pour différentes raisons, soit économiques, soit liées à leur propre image, tentent de trouver une porte de sortie. Simplement, cette porte de sortie, elle ne doit pas être humiliante. Et pour le moment, sur le terrain, les houthistes étant en position de force, il y a toutes les raisons de penser que finalement, ils n'offrent pas un deal qui soit acceptable par les Saoudiens.
Encore peut-être un dernier mot, Laurent Bonnefoy. Je ne vous ai pas posé la question, comme je l'ai fait tout à l'heure avec Ziad Majed et Jalel Harchaoui, à propos de la situation sanitaire. Je l'ai demandé pour la Libye et la Syrie. Qu'en est-il du côté du Yémen? Est-ce qu'on a une toute petite idée de la manière dont le pays, déjà ravagé par la guerre, est touché par le Covid-19?
Alors, la situation est très paradoxale. C'est-à-dire qu'on a, depuis le début de la pandémie, des discours qui sont extrêmement alarmistes, en fait, sur la fragilité du Yémen face au Covid-19. On a eu un cas qui a été annoncé début avril, puis pendant trois semaines, plus rien. Depuis une dizaine de jours, on a un emballement, mais ce ne sont là que les chiffres officiels. On a 70 cas officiellement recensés, dont une quinzaine de morts. Simplement, les effets, ils sont aussi symboliques, je dirais, dans le sens où, pour bien des Yéménites, l'emballement médiatique, politique et humanitaire autour de la crise du Covid-19 à l'échelle internationale, les ramène à finalement leur situation propre de dire, on subit une situation humanitaire extrêmement difficile depuis de nombreuses années, personne ou quasiment ne s'est réellement mobilisé pour nous. Et puis là, on voit cet emballement qui, en plus, risque bien, et ça ils en ont conscience, de réduire encore plus l'attention internationale pour le Yémen. Réduire les financements qui sont certes importants. Il y a une mobilisation importante de l'Union européenne, de l'ONU, mais qui sont généralement considérés comme insuffisants. Et donc là, il y a cette crainte de voir le Covid-19 effacer la réalité de la situation humanitaire des Yéménites qui subissent depuis maintenant plus de 5 ans.
Réaction de nos deux invités, Ziad Majed, Jalel Harchaoui. Je vais vous demander, messieurs, une réaction courte afin qu'on puisse ensuite enchaîner avec le Sahel où là aussi il se passe quelque chose, des choses. Jalel Harchaoui, Ziad Majed sur ce cas yéménite.
Je vais commencer.
Allez, Jalel
Harchaoui. Personnellement, je passe pas mal de temps à regarder le Yémen en raison justement de ce point commun qui est l'action des Émirats, qui a une si bonne réputation dans les capitales européennes et pourtant sont plutôt synonymes de destruction et de séparationnisme au Yémen. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une logique. La logique, en fait, consiste à focaliser sur le caractère idéologique des acteurs et non pas tellement la réalité militaire, géographique, cohésion de la société, solidité des institutions. Il y a vraiment une obsession sur les différents messages idéologiques qui pourraient émaner si on arrête la guerre. Et ça, je trouve que c'est un point commun tout à fait frappant avec ce qu'ils font en Libye.
Ziad Majed.
Oui, par rapport au rôle des Émirats, c'est exactement cela. C'est un petit pays, géographiquement parlant, qui souhaite devenir un acteur décisif autour de lui, mais ailleurs également, profitant d'une complicité occidentale et obsédé par son rôle et son image et allant dans la plupart des cas dans des logiques de contre-révolution et de fragmentation des territoires pour trouver des lieux où il s'impose comme l'acteur le plus important. L'Arabie saoudite a été piégée dans un conflit et son aviation commet des crimes de guerre régulièrement avec une inefficacité militaire qui surprend même ceux qui ne prenaient pas au sérieux les capacités du royaume. Et l'Iran, qui est derrière les Houthis, a piégé tous ses adversaires rivaux dans la région. Et le pays, aujourd'hui, est dans cette situation catastrophique qui le rend encore plus pauvre qu'il ne l'était avant.
Merci beaucoup, en tout cas, à Laurent Bonnefoy, qui était avec nous en direct depuis Oman, direction le Sahel.
Nous avons perdu 92 de nos soldats sous-officiers et officiers. J'ai bien venu m'incliner devant leur mémoire ici. Cette action de Boko Haram, et je dirais que c'est pour la première fois. J'ai assisté à beaucoup d'opérations, j'ai mené beaucoup d'opérations, mais en un seul coup, perdre autant d'hommes dans l'histoire, c'est pour la première fois.
Voilà, le président tchadien, au bord des larmes, qui vient rendre hommage aux 92 soldats morts lors d'une attaque menée par Boko Haram, attaque de ce camp militaire de Boma. Et puis par ailleurs, le Tchad n'est pas le seul pays à avoir perdu des hommes, puisque début mai, c'est un légionnaire de l'armée française qui est mort au Mali lors d'un affrontement avec des groupes armés. C'est d'ailleurs le deuxième soldat français engagé dans l'opération Barkhane au Sahel à perdre la vie depuis le début du confinement. Signe que cette crise mondiale sanitaire n'a pas entraîné le silence des armes, malheureusement, dans cette région du monde. Est-ce que ce Covid pourrait permettre peut-être aux groupes de gagner du terrain? Faut-il le craindre? Bonjour Niagale Bakayoko.
Oui, bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes politologue et présidente de l'African Security Network. Cette Sector Network est une organisation qui rassemble des spécialistes de la réforme des systèmes sécuritaires. Cette question qui se pose, Niagale Bagayoko, des conséquences du Covid. Je parlais à l'instant de l'armée française. Il se trouve qu'elle est déployée maintenant depuis quelques années dans la région et que maintenant, il y a en plus de la question des groupes armés, ce nouveau risque de Covid qui arrive vraiment au pire moment, parce qu'on est quand même dans un moment où, en réalité, ces groupes armés non seulement ne reculent pas, mais ne font que de gagner du terrain depuis des mois. Est-ce que, de façon générale, on va détailler, mais est-ce que vous pensez que cette crise sanitaire mondiale, elle peut avoir une influence sur l'état sécuritaire de la région? Est-ce que les groupes armées peuvent tirer un avantage tactique de cette situation?
Alors, selon moi, à ce stade, l'impact de cette pandémie du Covid-19 est relativement limité sur l'évolution des dynamiques propres à la crise sahélienne. D'abord, parce que même si un certain nombre de groupes, notamment des groupes djihadistes, ont fait des déclarations, je pense en particulier à l'État islamique, disant qu'il convenait d'exploiter pour ses combattants les opportunités offertes par les faiblesses et l'éventuel redéploiement des forces de sécurité pour lutter contre la pandémie, ce n'est pas à ce scénario qu'on assiste pour l'heure, étant entendu par ailleurs que l'on constate un assez faible taux de létalité ou des cas identifiés de Covid-19 dans la région.
Donc vous n'attendez pas une multiplication des attaques dans la région?
En tout cas, ce n'est pas ce que l'on constate. Ce que l'on constate, c'est la poursuite des attaques qui étaient déjà patentes avant le début de la pandémie. Notamment, vous avez diffusé l'extrait de la déclaration d'un Idriss Déby ému, voire bouleversé face à la perte de 92 soldats infligés par la faction de Boko Haram d'Aboubakar Shikau, le JAF. Sur ce front-là, les attaques s'intensifient. Si on regarde du côté de l'espace de la zone des trois frontières entre le Mali, le Niger, le Burkina Faso, le Luptako-Gourma, on pourrait plutôt considérer que l'on constate moins d'attaques que celles que l'on a pu voir à la fin 2019.
Alors, plaçons-nous justement du côté des États, du côté des armées régulières cette fois, parce que on sait aussi que ces armées régulières, elles participent assez largement au cycle de violence qui agite la région. Les actes de violence des armées de la région, Nigeria, Tchad, Mali, Niger, etc., sont tristement connus et assez bien répertoriés d'ailleurs par les ONG. Est-ce qu'il faut craindre cette fois que les armées régulières n'accélèrent, elles, en revanche, leurs exactions sur les groupes, sur les populations, en considérant, une fois encore, que les regards sont tournés ailleurs et que donc c'est le bon moment?
Alors, de ce point de vue-là, en effet, on constate malheureusement une recrudescence des abus et des exactions commises par les forces de défense et de sécurité. Les FAMA, les forces armées maliennes, ont été mises en cause par un rapport de la division droits de l'homme de la mission de l'ONU, la MINUSMA, récemment, au début du mois. Il en est de même des forces de défense et de sécurité du Burkina Faso qui ont été mises en cause par un rapport du Human Rights Watch, puis par le Haut Commissariat aux réfugiés, et de même pour les forces armées du Niger. Faut-il y voir un lien avec l'épidémie? Je ne le pense pas. Certains considèrent que c'est l'une des conséquences du surge, c'est-à-dire du sursaut qui a été appelé de ses voeux lors du sommet de Pau, par le sommet de Pau qui réunissait le président français et les présidents des cinq pays du G5 Sahel, sachant que les forces de défense et de sécurité de la région sont moins outillées que d'autres pour obtenir des victoires sans dégâts collatéraux. Mais moi, j'y vois aussi conséquence de l'absence de judiciarisation des théâtres d'opérations au Sahel. On a beaucoup mis l'accent sur le recours à l'instrument militaire, beaucoup moins au rôle de la chaîne pénale qui est absolument nécessaire pour empêcher les exactions qui touchent notamment des civils.
Et pour le moment, tristement absente. Niagale Bagayoko, encore peut-être une toute dernière question pour évoquer un cas particulier, celui du Mali, qui est évidemment particulièrement concerné, on le sait, par la présence de groupes armés. Et il se trouve que là, il y a des choses qui bougent ces dernières semaines, parce que pendant très longtemps, son président Ibrahim Boubacar Keïta se refusait à parler aux groupes armés pour essayer de trouver une solution politique. Et il se trouve que là, depuis quelques semaines, on a visiblement engagé un dialogue. C'est même très officiel, puisqu'il a dit, le président, qu'il a engagé ce dialogue avec notamment deux chefs djihadistes qui sont bien connus, qui sont Yad Agali et Amadou Koufa, que vous avez évoqué. Où en sont les discussions et est-ce que là aussi, et je vous demanderai une réponse relativement courte, une minute un peu plus, est-ce que la crise sanitaire pourrait au fond accélérer ou même ralentir à l'inverse ce dialogue qui est pourtant nécessaire pour espérer trouver une solution politique ?
Là encore, je ne pense pas qu'il y ait un lien avec la pandémie. L'entrée dans ces négociations est faite aux recommandations du dialogue politique inclusif qui a été mené au Mali, donc d'où... Ce n'est en revanche que ces négociations côté gouvernemental, ce n'est en revanche que récemment, en début de semaine, que le groupe de soutien islam aux musulmans a fait savoir qu'il a accepté d'y entrer à condition de constater un retrait des forces françaises. Là encore, je pense que les équilibres en jeu ne sont pas liés à la crise sanitaire actuelle, mais en revanche, la question qui va se poser est de savoir... Est-ce que ce sera une application de la charia? Est-ce que ce sera véritablement un retrait des forces françaises ou simplement une limitation des frappes sur le territoire malien? Cela reste à voir.
Eh bien, nous continuerons, Niagale Bagayoko, à observer ce qu'il se passe au Sahel, ce qu'il se joue. Merci infiniment, en tout cas, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes présidente de l'African Security Sector Network. Merci à vous.
I'm tired and so weary, but I must go along till the Lord comes and calls me away, oh yes. And the morning's so bright, and the lamb is the light, and the night is as black as the sea, oh yes.
Et oui, évidemment, Johnny Cash pour finir cette émission. Un grand merci à nos deux invités qui étaient avec nous ce matin, Ziad Majed. Un grand merci à vous. Je rappelle que vous êtes professeur à l'Université américaine de Paris. Un grand merci également à vous, Jalel Archaoui. Vous êtes, vous, chercheur à l'Institut néerlandais des relations internationales de La Haye. J'en profite pour remercier les équipes techniques du CDM qui nous permettent chaque jour maintenant, depuis le début de ce déconfinement, où nous sommes revenus en direct à la maison de la radio, d'assurer justement ces liaisons chaque jour, puisque je vous le rappelle, eh bien, on est resté un peu en mode confinement et que nos invités ne sont pas avec nous en plateau, mais on arrive à les avoir et on c'est évidemment grâce aux équipes techniques de Radio France.
There will be peace in the valley for me, dear Lord, I pray.
Et puis demain à 11h sur France Culture, pas de Culture Monde exceptionnellement, mais une émission qu'on va diffuser dans le cadre du week-end cinéma sur France Culture, rediffusion de Toute une vie autour de Stanley Kubrick, l'humain trop humain. Ça sera donc demain à 11h sur France Culture. Quant à nous, on se retrouve donc lundi en direct dans un très court instant. C'est Olivia Gesbert et La Grande Table.